Ce matin en Beauce.
Eh bien, on avait à déplacer mardi, vous en souviendrez, notre chronique avec Martin Rodrigue. Vous avez été nombreux à vous en plaindre.
Oui.
Eh bien, on reprend ça aujourd'hui. Salut Martin.
Salut Gaston. Non, le téléphone n'a pas dérougi hier.
Salut tes fans.
Oh, ouais, écoute, ouais, Martin, on s'ennuie. T'es où?
Ouais, pourquoi t'es pas là?
Il est où le gars des estacades?
Ouais. Il est où? Il est sur la rivière Chaudière.
Ouais, c'est ça.
Fait que je suis là, un matin.
Et tu nous parles de quoi?
Écoute, mon bilan du mois d'avril.
Ah, ben vas-y donc.
Écoute, mois d'avril, selon toi, Gaston, plus froid ou plus chaud que la normale?
Plus frais?
Ben oui. 2,8 a été la moyenne. Et normalement, il est censé faire 4,2, donc on a été 1,6 de moins. C'est quand même beaucoup. Mais on avait vécu plus froid l'an passé. On avait vécu un mois d'avril un petit peu plus froid que cette année, 2,7.
Sais-tu combien il faisait l'an dernier à pareille date?
Vas-y donc.
Et c'est une des températures les plus basses de l'histoire du Québec. Moins 3,9, pratiquement moins 4.
OK, c'était le record, c'est l'an passé, pour aujourd'hui.
1995 et 2019.
Ouais. Mais on va en parler de ça, Gaston. Je vais poursuivre sur mon mois d'avril. On a eu une vingtaine de centimètres de neige. Normalement, c'est une dizaine. Donc, un petit peu plus de neige que d'habitude.
C'est double.
C'est le double. Mais, tu sais, 20 cm, la plupart de cette neige-là était fondante quand même. 40 mm de pluie, et ça, c'est moins que la moyenne, qui est normalement 70. Donc, on a vu cette année moins de pluie. Ça a causé moins de problèmes d'inondation que l'an passé. Ça nous a donné un petit coup de main. La journée la plus chaude, le 29 avril, il a fait 16,1. Pas de 20 degrés en avril 2020. C'est quand même assez rare. Normalement, on a toujours un 20 en avril, mais pas cette année.
Mais en 2019,
oui.
À pareille date,
oui.
26,7 degrés.
OK.
Quand ça?
L'année passée, aujourd'hui, là.
Ouais.
OK.
Ça dit moins quelque.
Ça, c'était... Mais,
ça, c'était hier.
Ça, c'était hier, oui.
Branche-toi.
C'est pas clair, Gaston. Mais.
Regarde, va étudier comme il faut. Quand t'auras les vrais chiffres, okay, là, on s'en reparlera.
Je me rétracte.
OK, vas-y.
Me rétracte. Le moins 3,9, c'était en 1996.
OK.
Et le 26,7, c'était en 2013.
Ah, bon.
Non, mais on s'en trompe en 96.
Ouais.
Hey, je m'en rappelle, en 1989, il avait fait 2 degrés. Ouais, puis...
Et pour le mois d'avril 2020, si on revient, pour terminer, le plus froid qu'on a eu, c'est moins 7,4 dans la nuit du 17 au 18. Et là, Gaston.
Ouais. Ça donne bien, je dormais.
L'année 2020 sera historique à cause de ce qui nous arrive, la COVID-19, mais aussi au niveau météo, on va connaître en fin de semaine des froids historiques,
ah oui?
Rien de moins, oui, on va battre des records, ça va peut-être descendre jusqu'à moins 4 durant la nuit, je crois que c'est de samedi à dimanche ou vendredi à samedi, on va avoir une température assez froide, et samedi de la neige, peut-être des précipitations, quelques centimètres de neige, plus un seulement, la moyenne, Gaston, 16 degrés. Donc, 15 degrés en bas des moyennes, c'est historique. On n'a jamais vu un week-end de fête des mères aussi froid. Donc, bon confinement, tout le monde.
Oui. Moins 4, c'est ce soir.
Bon, vois-tu, ça risque d'être un record aussi, parce que normalement, la nuit à ce temps-ci de l'année, il est censé faire 2, 3, 4 degrés, là, à peu près. Donc, ouais, c'est pas fini cette... C'est l'hiver. Dans le fond, c'est des températures de la milieu de mars qu'on va avoir... À la mi-mai.
Et ça doit faire l'affaire, drôlement, de François Legault et de Arruda. Parce que
ben oui.
ça force les gens à rester à l'intérieur. Ben oui, puis bon, il n'y aura pas de grand rassemblement, comme on a vu la semaine dernière à Montréal. C'est incroyable, le monde est fourré.
Il faut faire attention, à Gaston, à ça. J'ai lu un article fort intéressant qui nous parle des photos trompeuses. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand vous êtes un photographe professionnel avec des gros objectifs, si vous êtes loin de la foule, on peut penser que la foule est compactée.
Qu'on percevoit. Ouais,
alors qu'en réalité, lorsqu'on s'approche de cette foule-là, les gens sont à 2 mètres. Donc, c'est un peu une profondeur de champ qu'on appelle qui fausse la réalité.
Quand on
qui donne l'impression qu'il y a beaucoup de monde collé, mais finalement, c'est pas le cas.
Est-ce que c'est la même chose avec une caméra?
C'est la même chose avec une caméra.
OK.
Donc, la profondeur de champ, faire attention à ça. Et faut pas toujours se fier à ce qu'on voit comme photo en pensant « Ah, oh, il y a donc bien du monde! » Mais finalement, c'est parce que le photographe est loin. Donc, soyez prudents.
Mais quand on filme, là, quand on nous montre ce qui se passe en direct, là, est-ce que...
Ben, si t'es proche, Gaston, si la caméra est à côté de la foule puis qu'on voit que les gens sont collés, c'est évident qu'ils sont collés. Mais lorsqu'on s'éloigne, faut être prudent. Tu sais, comme Mirabel, là, les gens qui s'étaient amassés pour voir le gros avion là, atterrir, faut faire attention à ces photos-là. Je me garderai une petite gêne. Normalement, les gens respectent la distance. 2 mètres, on en parlait la semaine passée. La plupart des gens ont de la difficulté. C'est beaucoup, là, 6 pieds et 2 mètres. Mais la plupart des gens, je pense, respectent un genre de 4-5 pieds. C'est correct. À mon avis, ça fait la job. Donc, voilà. Je voulais te parler un peu de ce qu'on a annoncé hier. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour les aînés. Mais on a parlé également de proches aidants. Moi, je peux pas comprendre, Gaston, qu'on n'a pas autorisé ces proches aidants-là à continuer d'aller visiter leurs proches, justement, pendant la crise. Ça aurait jamais dû avoir lieu d'interdire ces gens-là à l'intérieur des CHSLD, parce qu'on s'entend que ces gens-là, ils sont avec les aînés depuis des années. Ils les connaissent bien, c'est souvent des fils, des filles, des petites filles, des petites filles. Ils les connaissent bien, ils connaissent de quoi ils ont besoin. Les aînés sont de bonne humeur de les voir arriver. Et lorsque tu prives ces gens-là des proches aidants, les aînés deviennent un peu désorientés. Ils disent « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, c'est jamais la même préposée. Puis souvent, il y a certains aînés, malheureusement, qui vont se laisser aller carrément parce qu'ils n'ont pas cette visite-là réconfortante. Je pense pas que ça aurait été très risqué de laisser ces proches aidants-là continuer d'aller visiter
les aînés. C'est les purologues. Oui. C'est les purologues. C'est que là, on a peur de tout. Oui. Les proches aidants, maintenant, on a complètement renversé le fardeau de la preuve.
Oui.
On a dit au directeur d'établissement de CHSLD, dorénavant, si vous empêchez un proche aidant d'entrer, vous allez devoir nous dire pourquoi.
Mais c'est
pourquoi
mais,
vous
ça aurait dû toujours être
oui, mais en même temps, au début, est-ce qu'on veut le savoir? Hein? C'est facile de dire, on regarde ça à cette heure, puis se reculer, puis dire, ah, mais c'est facile, on aurait dû les laisser passer avant. Écoute, on ne sait pas où ce qu'on était avant. Oui, mais tu le sais pas.
Oui,
on n'a pas aucune preuve de qu'est-ce qui se passe. Attends un peu, on va mettre un côté là-dessus, on va s'assurer de voir c'est quoi les barèmes de la COVID qui se passe en ce moment-là.
On a trop tardé. C'est quoi la différence entre un proche aidant qui vient chaque jour et la préposée qui, elle aussi, a une vie, sort à chaque soir, va faire son épicerie? Quelle est la différence?
Si d'avoir le moins de limiter le plus d'accès.
Ces proches aidants-là ont les équipements qu'il faut, ils sont sécuritaires, ils n'ont pas voyagé. Finalement, il faut s'assurer de certains critères. Mais c'est quoi la différence entre un employé et un proche aidant?
Comment tu peux contrôler toutes les gens qui rentrent dans ton établissement?
Ils ne l'ont pas fait avec les employés. Ils les ont garochés d'un CHSLD à l'autre à Montréal. C'est pour ça que ça s'est propagé. Puis il n'y a pas eu de contrôle.
Puis je vais te répondre. C'est que les proches aidants significatifs, OK, ouais. C'est ce qu'on a dit, c'est des personnes que tu vois régulièrement dans les CHSLD. Ben oui. Ma sœur en était une démonstration classique. Elle se rendait au moins 5 fois par semaine voir mon père. Elle s'en occupait. Elle lui coupait les cheveux. Elle le lavait. Elle l'aidait à son hygiène et tout ça. À un point tel que quand ma sœur rentrait au CHSLD où mon père était, les préposés aux bénéficiaires étaient heureux de l'avoir. Et il venait faire un petit tour. Avez-vous besoin, Mme Cloutier, qu'on vous aide un peu? Non, ça va bien. Ça lui donnait plus de temps pour aller s'occuper davantage.
Je te l'enlève pas. Je dis juste que la décision qui a été prise à ce moment-là, c'était correct. Mm-hmm. Parce qu'on le savait pas. Point.
On ne sera pas d'accord là-dessus.
Ben, c'est correct. Comme je te dis, c'est facile de pitcher la balle, de dire maintenant, avec du recul, c'est ça la décision qu'on aurait dû prendre.
Parce qu'on n'a pas pensé aux impacts. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage à Radio-Canada de cet homme à Montréal qui, sa mère avait le COVID-19. Sa mère avait 85 ans. Puis, elle était décomptée. Elle était en fin de vie. Puis, bon, vu qu'elle est en fin de vie, ben les dirigeants ils ont dit « Ben, tu peux venir voir ta mère. Il reste quelques jours. » Il s'est mis à aller la voir, à s'en occuper, à leur prix du mieux, elle a guéri. Mm-hmm. Combien d'aînés comme ça se sont laissés aller parce qu'ils n'ont pas eu accès à la visite de proches aidants? On ne le saura jamais, c'est difficile à déterminer.
Mais
j'ai l'impression qu'il y a eu un impact énorme.
Il y a un urgentologue qui a dit, moi, les gens que je reçois aux urgences qui proviennent de CHSLD, les personnes âgées, très âgées, se sont laissés mourir, c'est-à-dire qu'ils ont cessé de boire ou de manger, ou encore on n'était pas assez suffisamment de personnel.
Ben, il y en a qui sont morts de faim.
Il y en a qui sont morts
de faim avec leur prochain aide. Non. Mais tu sais, c'est touché. T'as raison, Marc-André. C'est de l'inconnu, ce virus-là. Mais Ça, je pense qu'on va avoir une leçon pour les s'il y a une prochaine épidémie, pandémie. Ben, je pense qu'on fera pas cette même erreur-là. À mon avis, avec le recul, c'était pas une bonne idée. Mais bon.
Ben moi, je pense que les CHSLD, à la base, c'est ça va mal.
Non, non, exactement.
Fait que, tu sais, je pense qu'on n'était pas prêts à ça.
On n'était pas prêts. Là, j'espère qu'on va avoir eu nos leçons, puis qu'on va s'en occuper comme il faut. Mais c'est pas terminé. À Montréal, c'est loin d'être terminé. Ici, en région, on est quand même privilégié. Ça m'amène un autre petit sujet avant de passer à la programmation, Gaston. Je sais pas si tu as vu ça sur les réseaux sociaux. Ça a été enlevé de YouTube, ça. Puis là, je veux pas tomber dans la conspiration, parce que c'est quand même deux médecins, deux urgentologues de la Californie, Don Erickson et Artin Massihi, qui ont fait une conférence de presse, ça a été diffusé sur le réseau ABC en Californie, pour dire que eux sont urgentologues, ils ont des années d'expérience, puis le confinement actuellement, ils ne voient plus la pertinence de ça. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, nous on pense que les effets secondaires liés au confinement sont pires que le coronavirus. Donc, on voit de plus en plus de personnes se présenter à l'urgence avec des troubles psychologiques, la violence, la dépression. On dénote plus de suicides. Et nous, on a beaucoup testé dans notre hôpital et dans la région où ils sont en Californie. Et on remarque que le taux de décès est similaire à la grippe. Donc là, on est en train de se dire, est-ce que ça vaut la peine? Au début, oui, comme tu disais, Marc-André, tantôt. Au début, ils sont d'accord pour dire, on a bien fait de réagir parce que c'est nouveau, on connaissait pas ce virus-là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais là, plus ils testent, plus ils se rendent compte que, oups, finalement, c'est oui, il faut le prendre au sérieux, le coronavirus. Oui, il faut pas déconfiner d'un coup sec. Eux autres, ils sont clairs. Les événements sportifs, les grands événements, c'est pas prioritaire, pas tout de suite. Mais déconfiner les petits commerces, puis dans le fond, la méthode que fait le Québec actuellement, eux sont pour ça. Parce qu'on sait qu'il y a certains États, aux États-Unis, l'Ontario, qu'eux sont plus frileux, mais ces médecins-là disent, on devrait déconfiner tranquillement, mais pas vite.
Là, on a un état test qui est la Géorgie.
Oui.
Et la Géorgie est complètement déconfinée. Là. Tu peux aller t'asseoir ses genoux de la voisine pour partager avec elle un hot dog.
Exact.
OK? Ben, sais-tu, ça fait une semaine maintenant, ils n'ont pas eu de hausse.
Ben, c'est ce que ces médecins-là parlaient aussi de la Suède. Mm-hmm. Ils ont dit que ce n'est pas significatif. Ouais. On remarque peut-être une petite différence, mais ce n'est pas significatif assez pour imposer un confinement. Là où ils se sont fait un peu ramasser, puis c'est pour ça que ça a été très controversé comme entrevue, c'est qu'on a remis en doute, premièrement, leurs chiffres. On n'est pas sûr de leurs chiffres. Et aussi, ce qu'ils ont dit, ces urgentologues-là, écoute bien, rapportent que certaines administrations sont forcées de mentionner sur le rapport de décès que la COVID fait partie du cause du décès, alors que selon eux, il n'en est rien. Pour la plupart du temps, les gens étant décédés des suites de complications de leurs conditions de santé préalables. Donc, ces gens-là sont décédés de leurs conditions de santé qu'ils avaient déjà, les personnes âgées. On s'est rendu compte qu'il y avait le COVID, mais c'est pas ça qui les a fait décéder, mais que certaines administrations seraient forcées de dire « Mets ça dans la case COVID pour qu'on mette ça dans les statistiques. » Là, c'est controversé. Je te dis pas que je suis d'accord, mais ils ont dit ça. Je veux dire, ils sont sur le terrain.
Il y a quand même une personne âgée, qui, même deux à Montréal, qui se sont suicidés.
Ouais, exactement.
Okay? Parce qu'ils étaient confinés. Et est-ce qu'on attribue ça à COVID?
Ben, c'est ça. Donc,
la réponse, c'est vous.
Bon. Ben, ça n'a pas le choix. C'est par la banque.
C'est les conséquences.
C'est les conséquences de
la COVID.
C'est ça.
Et autre chose qui... Puis ça, je suis d'accord avec eux. Eux, ils sont là-dedans. Là. Ils disent, il faut faire attention. Toutes les mesures de protection qu'on met actuellement, c'est correct. Mais il faut pas en abuser. Parce que le système immunitaire d'un être humain, c'est important. Il faut que l'être humain s'expose au virus. Il y a des virus puis des bactéries partout. Selon eux, là, les deux médecins, ils ont dit, si on va dans vos maisons ou on va dans la plupart des épiceries de ce monde, on va trouver des traces de COVID quelque part. Il y en a partout probablement, selon eux. Mais la plupart des gens, 95%, attraperont pas le COVID parce qu'ils ont un bon système immunitaire.
Les Haïtiens. Est-ce qu'il y a un haut taux de mortalité à Haïti à cause de la COVID-19?
Je ne connais pas les stats.
S'il y a une place où il y a des microbes et qu'ils ont un système immunitaire assez complet, là. Ouais. C'est pas mal là, Haïti. Va donc me chercher ça.
Donc, on là-dessus. Là. On dit, garde les enfants, là, on les expose à avoir à la garderie, il y a plein de virus, puis on les met pas dans une bulle quand ils naissent. Là. Donc, c'est un peu la même chose pour l'être humain adulte. Si on décontamine à outrance puis qu'on fait trop attention, à un moment donné, on n'attrapera pas seulement le COVID, on va attraper toutes sortes d'autres maladies qu'on n'aurait pas attrapées normalement. Donc, eux prônent la prudence là-dessus. Oui, respecter certaines mesures, mais ne pas abuser du confinement et ne pas abuser de toutes ces mesures-là. Essayer de sortir tranquillement, pas vite, puis de s'exposer à nouveau. Mais ces médecins-là sont très controversés aux États-Unis, mais ça reste que c'est des médecins qui ont 20 ans d'expérience. Je veux dire, ils parlent pas à travers leur chapeau non plus. Eux ont un autre son de cloche. C'est ça. Et on remarque, Gaston, de plus en plus, il y a une bataille là, de scientifiques. Il y a vraiment plusieurs points de vue partout dans le monde. Et là, le consensus, il n'y en a pas actuellement.
Arruda s'est comporté comme une girouette à l'égard de bien des...
Le masque. Là.
Le masque. Puis,
mais pour, je le comprends parce que...
Pour ton info, en Haïti, il y a seulement 12 morts.
12 morts à Haïti. Le système immunitaire d'un Haïtien, m'a dit en affaire, il est solide en tabarnouche. Ben,
oui, il y a peut-être ça. Il y a peut-être aussi dans... la...
Il y a 101 cas, par exemple.
Hein? C'est pas beaucoup.
Mais c'est rien.
Ils sont,
c'est
quoi,
rien.
Sont à peu près 10 millions à Haïti, ouais. Quelque chose du genre. Mais encore là, c'est quelque chose qui ne fait pas consensus. Est-ce que l'été, la chaleur, les pays chauds, est-ce que ça va avoir un effet sur le virus? On n'est pas encore sûr. Il y a certains qui disent que le virus pourrait carrément disparaître cet été puis revenir cet automne, comme la grippe. On va en tous les jours, on a des articles un peu partout. On est bombardé d'un bord puis de l'autre.
Les futurologues. Parle-moi pas des futurologues. Ouais. Parle-moi, ils ont de la misère à analyser ce qui s'est passé. Imagine-toi le futur. Bon, qu'est-ce qu'il y en a du côté de Beauce.tv à l'horaire?
Beauce.tv cette semaine, donc plusieurs vidéos, dont notre découverte où on a des animaux drôles à vous présenter. Pour vous changer d'idée, la pêche blanche à Sainte-Aurélie cet hiver, les contes beaux souvenirs d'autrefois, une petite bière. Mon minou, c'est le thème. Mm-hmm. Également, les Twin Brothers avec leur nouveau vidéoclip, les Joyeux Beaucerons, Steven and Steven. Claudie Mercier, notre occupation double de la Beauce, continue ses chroniques sur YouTube qu'on vous rediffuse sur Beauce.tv. Cette semaine, c'est « Mon amoureux me maquille et répond à vos questions ». Okay. J'ai bien hâte de voir cette chronique-là. Écoute, la Coupe Futura, les 10 ans de la Coupe Futura, on va rediffuser ça cette semaine. C'est le CRS Express qui avait gagné ça ici du côté de Saint-Georges il y a 10 ans. Et c'est un documentaire vraiment intéressant préparé par notre équipe, Vincent Tanguay et Éric Veilleux. Êtes-vous satisfait de votre expérience de magasinage depuis l'ouverture des commerces? Alors, c'est la question qu'on va vous poser sur Facebook cette semaine, vendredi. J'ai hâte de voir les résultats de ça. Également, des archives du Woodstock 2013, la balle molle sur glace à Saint-Victor en 2018. Oui, de la balle molle sur glace. Et on termine toujours ça en beauté cette semaine. C'est Jenny Murray qui nous chante « Je promets ». Je vous promets de revenir la semaine prochaine, mardi.
Ça nous fera plaisir.
Voilà.
Elle ne fait pas de promesse sa journée, par exemple.
Ouais, voilà. Ben Gaston, ça, c'est correct. Oh, ouais, mardi.
Mardi, c'est parfait.
Parle-nous
parfait.
Pas du futur.
Ouais. Non.
On a de la misère avec le présent, puis le passé, on n'est pas capable de l'analyser comme ça.
Faites attention au 5G. Hein, OK. C'est bon.
Oui, on n'en a pas dans le coin de tour 5G.
Quatrième tour qui est tombé.
Oui, on a fait un. Câline.
Ben non, c'est une farce. Ouais. C'est... Voilà.
Merci Martin Rodrigue. Bye. On s'arrête.